Le document qu'on analyse aujourd'hui, c'est le programme de la formation Automate Siemens S7 Maintenance proposé par Altia Formation et on va voir ensemble comment l'adapter pour cibler parfaitement des techniciens de maintenance qui débutent en automatisme.
L'introduction du programme submerge le lecteur sous un vocabulaire très technique sans en expliquer le contexte pratique et quotidien.
Ouais, c'est exactement le sentiment que j'ai eu en lisant la toute première page.
Bah oui, parce que la faiblesse ici, c'est que dès les premières lignes, le document te balance une liste de termes ultra denses. On parle de Profibus, de Profinet, de Safety ou du logiciel Simatic Manager.
C'est un vrai mur de briques pour un novice.
Mais complètement. Pour un technicien débutant, c'est paralysant. En fait, le texte suppose que l'apprenant sait déjà à quoi servent toutes ces technologies, et ça crée une barrière à l'entrée énorme.
C'est très intimidant, ouais. Je veux dire, imagine le technicien qui vient peut-être de la mécanique pure, qui reçoit sa convocation et qui lit ça. Il va se dire quoi?
Il va se braquer, il va se dire que c'est un monde beaucoup trop abstrait pour lui.
C'est comme donner le manuel de vol d'un Boeing à quelqu'un qui veut juste apprendre à conduire une voiture, quoi.
Exactement. Et donc la suggestion pour corriger ça, c'est de recontextualiser chaque terme technique autour de sa fonction concrète sur le terrain.
D'accord, donc il faut scénariser un peu la présentation du matériel, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Il faut que le débutant comprenne pourquoi il va apprendre telle ou telle chose.
Tu aurais un exemple concret de la façon dont on pourrait reformuler?
Bien sûr. Par exemple, au lieu de simplement faire une liste à puces du genre Automate Siemens S7 300 et 400, module déporté Profinet et Profibus.
Ce qui est très sec.
Très sec, ouais. Eh bien, on transforme ça avec une approche fonctionnelle. On pourrait écrire par exemple « Découverte du cerveau de votre machine, donc les automates S7, et de son système nerveux qui correspond en réseau de communication Profinet et Profibus ».
Ah, j'adore cette idée de cerveau et de système nerveux. Je suis convaincue que ça parle beaucoup plus.
Bah oui, un technicien, même s'il débute en informatique industrielle, il sait comment un fluide circule dans un tuyau.
Ouais, il a la notion de flux.
Exactement. Donc là, on lui donne une image mentale solide sur laquelle il peut venir accrocher des mots complexes. Et on peut faire pareil avec d'autres termes du document.
Par exemple ?
Plus bas dans le texte, on a le mot « safety », balancé comme ça, tout seul.
Ouais, juste le mot en anglais.
Voilà. Pour un non-initié, c'est juste un anglicisme de plus. Si on applique notre logique, on pourrait écrire un truc comme « le module safety », comprendre comment l'automate gère la sécurité physique des opérateurs, par exemple, quand on appuie sur un arrêt d'urgence.
Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Parce qu'un arrêt d'urgence, un technicien, il envoie tous les jours dans son usine.
C'est ça. On donne du sens à la technologie avant de lui jeter les spécifications techniques à la figure.
Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes.
Vas-y.
Si je me mets à la place du formateur ou de l'expert technique qui a rédigé ça, il y a un niveau de rigueur à maintenir, non? Il pourrait avoir peur qu'en parlant de cerveau de la machine, on édulcore trop la formation.
C'est une crainte hyper classique.
Bah oui, il veut pas perdre en crédibilité.
Je suis d'accord, mais il faut vraiment dissocier la rigueur du contenu de la rampe de lancement pédagogique. Poser les bases avec un langage simple, ça ne t'empêche absolument pas de plonger dans des trames réseau ou des adresses IP le lendemain.
Oui, c'est juste pour l'accrocher au début.
C'est même mieux que ça. Le technicien retiendra beaucoup mieux les détails d'un réseau s'il a compris dès le départ que c'est l'épine dorsale de sa ligne de production.
On prépare le terrain, en fait.
Voilà. Sans cette traduction initiale, le jargon glisse sur le gars et rien ne s'imprime.
Très juste. Et ça nous amène d'ailleurs à un autre point critique quand on avance dans la lecture du document. La transition entre la théorie des logiciels et les exercices pratiques de dépannage manque d'une étape d'accompagnement méthodologique pour un novice.
Ouais, c'est un saut dans le vide, franchement.
C'est vraiment la faiblesse majeure de cette section. Le plan liste des manipulations très procédurales, genre créer une table de visualisation ou modifier des valeurs.
Ce qui est de la simple utilisation de logiciels.
C'est ça. Et juste après, bim, on passe à l'analyse de programme et dépannage sur une installation virtuelle. Pour un débutant, le saut entre savoir utiliser un menu et trouver une panne complexe, c'est vertigineux.
Bah c'est normal, le lien logique n'est pas encore fait dans sa tête.
Exactement. Moi, je compare ça à... c'est comme si on apprenait à un étudiant en médecine à allumer la lumière du bloc opératoire et à tenir un scalpel et qu'ensuite on lui disait « Allez, fais une opération à cœur ouvert ».
Sans lui avoir appris à diagnostiquer le patient avant.
Voilà. Il a l'outil, mais il n'a pas du tout la démarche. Donc la suggestion ici, c'est d'insérer une étape intermédiaire claire, vraiment axée sur la traduction des symptômes physiques en hypothèse logicielle.
Il faut guider sa réflexion.
Oui, il faut guider l'esprit du technicien avant même de lui demander d'analyser une seule ligne de code.
Tu verrais ça comment concrètement dans le programma ?
Eh bien, comme exemple concret, on pourrait ajouter un sous-chapitre juste avant l'analyse virtuelle, un truc intitulé « Méthodologie du débutant de la machine arrêtée à l'écran de contrôle ».
Ah, j'aime bien ce titre. C'est très parlant.
N'est-ce pas ? L'idée, c'est de lui donner une méthode. Si le convoyeur est bloqué, quelles sont les trois questions que je dois me poser avant d'ouvrir le logiciel ?
Un jour d'algorithme de pensée pour le diagnostic.
Tout à fait. Et on peut aussi ajuster les puces existantes. Par exemple, il y a cette ligne qui dit « Analyse du cheminement de l'information via les références croisées ».
C'est très formel.
C'est techniquement exact, mais ça ne dit pas à un débutant à quoi ça sert dans la vraie vie. On devrait le reformuler en « Utiliser les références croisées pour remonter à la source d'une anomalie physique ».
Ouais, on part toujours de l'anomalie physique. Si une vanne refuse de s'ouvrir, le gars comprend que cet outil logiciel sert à enquêter sur pourquoi elle s'ouvre pas.
C'est ça. L'outil devient une sorte de lampe torche pour suivre les fils électriques invisibles, tu vois ?
C'est une excellente métaphore. Mais tu sais, l'auteur du document pourrait nous dire qu'il a déjà prévu ça. Dans la section « Fonction maintenance », il a bien mis la ligne « En ligne diagnostic matériel ».
Oui, j'ai vu ça.
Il pourrait argumenter que cette fonction sert justement à voir l'état du matériel en direct, donc que le pont méthodologique existe déjà.
Je suis un peu perplexe face à cet argument.
Pourquoi ? C'est un outil hyper puissant chez Siemens pourtant.
C'est vrai, l'outil est top. Mais constater un état, ce n'est pas comprendre une chaîne de causalité.
C'est-à-dire ?
Mais le diagnostic va te dire « Ok, le capteur B24 est en défaut ». Super. Mais la vraie maintenance, c'est de comprendre pourquoi ce défaut a verrouillé toute la machine. Si tu n'as pas la méthode d'enquête, tu vas juste changer le capteur.
Et si le problème, c'était un fil coupé ailleurs, tu es toujours en panne ?
Exactement. C'est pour ça qu'il faut structurer la pensée avant de plonger dans l'outil de diagnostic pur. Et d'ailleurs, ça soulève un autre point hyper important sur la pratique.
Lequel ?
L'accent fort mis sur les environnements d'installation virtuels risque d'éloigner le technicien de la réalité physique et tangible du terrain industriel.
Ah oui, le fameux syndrome du simulateur.
Voilà. La faiblesse de ce programme, c'est que même s'il mentionne du matériel réel comme un module d'entrée-sortie ET200, il insiste lourdement sur, je cite, « un simulateur de process et une installation virtuelle ».
C'est devenu la norme en formation, tu sais, c'est propre, tu casses rien, c'est confortable.
Oui, c'est très confortable pour le formateur. Mais pour un débutant, le danger, c'est de devenir un super pilote de souris sur un écran d'ordinateur.
Un gars hyper à l'aise avec les fenêtres Windows dans une salle de classe silencieuse.
Exactement. Sauf que dans la réalité, l'usine, bah, c'est pas silencieux. C'est bruyant, l'armoire électrique est pleine de poussière, il y a des câbles partout.
Et il n'y a pas de petites flèches vertes qui flottent en l'air pour te dire où cliquer.
C'est clair. La maintenance, c'est un métier tactile, c'est auditif. Si tu les habitues juste à des coches vertes sur un écran, ils vont paniquer face à une vraie armoire qui clignote en rouge.
Donc ta suggestion, c'est de les forcer à sortir de l'écran.
Ma suggestion, c'est d'intégrer explicitement le matériel physique dans la description des travaux pratiques. Il faut rassurer le débutant en lui montrant qu'il va toucher de vraies machines.
Comment tu formulerais ça dans le document, concrètement ?
Prenons l'exercice sur le forçage des variables. Au lieu de laisser ça dans le monde virtuel, la ligne devrait devenir « Forcer une variable sur Simatic Manager et observer la réaction physique immédiate sur le module ET200 ».
Genre le clic d'un relais ou l'allumage d'une LED.
Exactement. Le gars tape un 1 sur son clavier, il valide et clac, il entend le relais à côté de lui.
C'est ce petit clac qui fait toute la différence. Ça démystifie l'automate.
Absolument. Il comprend que la ligne de code qu'il regarde, elle a un pouvoir direct sur l'électricité. On crée une boucle de rétroaction sensorielle.
Ouais, c'est fondamental pour la confiance. Et on pourrait même faire l'inverse pour la recherche de panne.
C'est-à-dire ?
Au lieu de lancer une panne logicielle cachée, on part du physique. Par exemple, on modifie l'exercice de diagnostic en disant « débrancher physiquement le câble réseau du module », observer la LED rouge qui s'allume en vrai, puis ouvrir l'outil logiciel pour voir comment le système réagit à cette erreur physique.
Ah, j'adore ça. Le point de départ est réel. Le technicien crée la panne de ses propres mains, puis il va la chasser sur son écran.
Exactement. L'automate n'est plus une boîte noire magique. Ça devient juste un outil pour lire la réalité de l'usine.
C'est parfait. Mais on pourrait nous dire que de nos jours, dans les usines modernes, on fait beaucoup de télémaintenance.
Ouais, le prédiagnostic à distance.
Oui. Les techniciens se connectent depuis leur bureau avant d'aller dans l'atelier. Du coup, est-ce que le simulateur virtuel ne prépare pas mieux à cette nouvelle réalité ?
Je suis pas d'accord avec ça. Enfin, c'est vrai pour un expert. Le prédiagnostic à distance, c'est génial quand tu as déjà de l'expérience et que tu fais instinctivement le lien entre un bit sur ton écran et la machine à l'autre bout de l'usine.
Ah, je vois. Mais pour notre cible débutante.
Pour un débutant, si tu ne le sors pas du virtuel, l'automate reste une abstraction. Il faut ce côté multisensoriel, voir la LED, entendre le contacteur. C'est ça qui forge la confiance.
Sinon, on les envoie sur le terrain avec des connaissances théoriques qui vont s'effondrer au premier coup de stress.
Exactement.
Eh bien, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Cette formation a vraiment une base technique très solide, hein.
Ah oui, franchement, le fond est excellent. Le choix des technologies couvertes, les réseaux, la gestion de la sécurité, tout ça, c'est du haut niveau.
Le matériel est là aussi. Le souci, c'est pas le quoi, c'est vraiment le comment.
Et ces trois ajustements qu'on propose ont un effet levier énorme.
Oui, on récapitule. Premièrement, humaniser le jargon technique dès l'intro pour éviter de les effrayer.
Deuxièmement, créer ce fameux pont méthodologique entre l'apprentissage des menus du logiciel et la vraie résolution de panne.
Et enfin, troisièmement, associer systématiquement les manipulations sur le simulateur aux réactions physiques du matériel dans la salle.
C'est ce qui transforme un cours magistral en une vraie expérience de terrain.
Tout à fait. En tout cas, on a hâte de voir comment l'auteur va intégrer ces pistes de réflexion dans son programme.
On l'invite chaleureusement à nous soumettre sa prochaine version pour qu'on en rediscute.
Absolument. L'objectif, au bout du compte, c'est que ces techniciens repartent dans leurs ateliers avec des compétences béton et surtout avec la confiance nécessaire pour affronter n'importe quelle armoire électrique. Merci à tous d'avoir suivi notre analyse et à très vite.